Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Notre série sur la littérature comparée se poursuit avec Shakespeare. Et Pierre Brunel et son invité, Michael Edwards, évoqueront la réception de Shakespeare. Réception difficile en France, puisqu'il faut attendre le milieu du 19e pour que Shakespeare soit reconnu comme un des plus grands dramaturges de tous les temps. Mais aussi, même les Anglais ont eu du mal à saisir Shakespeare, en tout cas après la restauration de Charles II. Nous verrons tout ça. Bonjour messieurs.
Bonjour madame. Bonjour.
Michael Edwards, vous êtes écrivain anglais et français, poète, traducteur, comparatiste, professeur au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages sur la création littéraire et artistique, et en particulier sur Shakespeare. Quand nous amorcerons la partie Racine et Shakespeare, j'évoquerai tout ce que vous avez pu publier à ce sujet-là. Et Pierre Brunel, nos auditeurs vous connaissent bien maintenant, vos ouvrages, vos articles sur Shakespeare en France font aussi référence, Claudel et Shakespeare, vous avez écrit des articles sur Yves Bonnefoy et Shakespeare, et puis Hugo, père et fils, Stendhal, Ionesco, et selon l'usage, monsieur, quelles illustrations musicales avez-vous apportées aujourd'hui ?
Alors, il y a une première illustration de musique élisabéthaine qui a été choisie par Michael Edwards et qu'il va nous présenter, s'il le veut bien.
C'est une chanson très célèbre de Morley, Thomas Morley. « It was a lover and his last », une des chansons anglaises les plus célèbres en dehors des Shakespeare.
Et la seconde, c'est
alors
vous qui
l'avez
choisie.
Alors, moi, j'ai choisi dans l'Othello de Verdi, à l'acte 4, ce moment sublime où Desdemone chante la chanson du Saul, c'est-à-dire une chanson qui évoque les amours de sa mère. Et je l'ai choisie à cause de la beauté de cet air, de la voix de Maria Callas qui le chante, mais aussi parce que dans la leçon inaugurale de Michael Edwards pour la chaire européenne du Collège de France, j'ai trouvé une page sur le Saul et sur Shakespeare. J'en lis un fragment. « Ce Saul qui paraît à nouveau dans le monde secret de son reflet sous l'eau n'est qu'un signe minime mais suffisant de cette recherche d'un univers renouvelé que je sens comme le foyer de la poésie de Shakespeare. »
Vous avez d'ailleurs, Michael Edwards, vous venez de publier Shakespeare, le poète au théâtre. Ça ponctue le petit passage que M. Brunel vient de nous lire. Dans votre précédente émission, Pierre Brunel, vous nous aviez conduit auprès de Cervantes, contemporain de Shakespeare. Montaigne aussi est de cette même génération et il y a Robert Elrod qui vient de publier un ouvrage intitulé « Montaigne et Shakespeare, l'émergence de la conscience moderne ». Donc, nouvelle forme de conscience de soi chez Montaigne et Shakespeare ?
Oui, alors, le problème de la connaissance que Shakespeare a pu avoir de Montaigne est un problème difficile avec des débats sans fin. Robert Elrod, dans ce livre très important, a pris le parti de l'économie. Autant que je me souvienne, et même j'en suis sûr, il y a pour lui une seule référence qui paraît sûre dans La Tempête. Et il ne faut pas projeter du Montaigne indûment sur le texte shakespearien. En revanche, ce qui l'a intéressé, et ce qui effectivement est le plus intéressant, c'est cette émergence de la conscience de soi, et dans les essais, et dans l'œuvre de Shakespeare, avec des modalités évidemment différentes. Et c'est lié à une recherche que le professeur Elrod conduit depuis longtemps sur ce problème de la conscience de soi, de la naissance de la conscience moderne.
Parce que Montaigne et Shakespeare avaient quand même deux mondes différents.
Oui, mais ce qui est tentant, c'est le rapprochement à cause de leur proximité dans le temps. Et puisque vous avez fait allusion à notre précédente émission et à Cervantes tout à l'heure, je voudrais peut-être dire un mot à ce sujet aussi. Cervantes a été un homme de théâtre. Il y a dans le Don Quichotte l'épisode des tréteaux de Maître Pierre. Et surtout, ce que je voudrais dire, parce que ça m'a beaucoup frappé, en relisant le William Shakespeare de Victor Hugo, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir d'ailleurs en cours d'émission, je me suis aperçu que ce livre n'était pas seulement un livre sur Shakespeare, mais un livre sur les génies, et toute la première partie leur est consacrée. Dans cette liste des génies, il n'y a pas Montaigne, il y a Rabelais, il n'y a pas Montaigne, mais il y a à la suite Cervantes et Shakespeare. Et si je peux lire ici un petit extrait, il illustrera une comparaison donc entre Shakespeare et Cervantes faite par notre Victor Hugo, si je puis dire, national. La difformité tyran ne suffit pas à ce philosophe, il lui faut aussi la difformité valet, et il crée Falstaff, il s'agit bien sûr de Shakespeare. La dynastie de bon sens inaugurée dans Panurge, continuée dans Sancho Panza, tourna mal, et dans Falstaff. Voilà, donc...
Donc on a la généalogie,
voilà,
la suite,
et on a sous la plume de Victor Hugo quelque chose qui est bien de l'ordre du comparatisme, presque du comparatisme sans le savoir.
En ce qui concerne Shakespeare et les autres dramaturges élisabétains, quelle est la position des comparatistes? Quelle est leur publication? Parce que ça a dû être foisonnant aussi.
Oui, j'ai un mot à dire sur cette question pour deux ou trois raisons. La première, c'est que la partie la plus longue de ma thèse portait sur Claudel et Shakespeare. Et Shakespeare était inséparable pour Claudel de certains autres élisabétains. Dans Tête d'or, par exemple, c'est beaucoup moins Shakespeare qui est présent que le Tamerlan de Marlowe. Et puis, il y a une raison qui est liée à l'histoire de la littérature comparée. Dès la première émission que nous avons faite, j'ai insisté sur ce point qui m'intéresse beaucoup parce que les études n'ont pas été poussées assez loin, à mon avis, à ce sujet. Il y a tout au long du 19e siècle cet enseignement, en particulier à la Sorbonne, de littérature étrangère. On ne dit pas encore littérature comparée. Et je trouvais qu'il y avait un creux entre les fondateurs, Claude Fauriel, Frédéric Ozanam, et puis la génération des comparatistes proprement dit, Fernand Badensberger, au début du XXe siècle, qui a véritablement inauguré la chaire de littérature comparée avec ce nom en Sorbonne. Et puis je me disais, la deuxième moitié du siècle, il n'y a personne. Eh bien, il y en a quand même deux ou trois. Et parmi eux, quelqu'un qu'on a oublié aujourd'hui, Alfred Mézières, qui a occupé la chaire en Sorbonne pendant un certain nombre d'années. Il se trouve que j'avais un livre de lui à la maison. J'étais sur le point de m'en débarrasser. Je le regarde. Prédécesseur et contemporain de Shakespeare, le titre. Je regarde sa bibliographie. Il y a un livre sur Shakespeare, un livre sur les prédécesseurs et contemporains de Shakespeare, livre sur Shakespeare et les successeurs de Shakespeare. C'est-à-dire que pour ce comparatiste-là, le lien entre Shakespeare et les autres dramaturges élisabétains était important. Chose curieuse, je le signale au passage, Alfred Mézières a quitté la fonction académique à un certain moment pour devenir, je crois, député, sénateur. Enfin, il a terminé dans la peau d'un homme politique.
Eh bien, maintenant, nous allons évoquer la fortune, la réception de Shakespeare, et aussi bien en Angleterre qu'en France. On l'a vu, c'était pas toujours l'émergence facile. Mais Michael Edouard, comment a-t-on réagi au XVIIe siècle en France?
On n'a pratiquement pas réagi. Des comédiens anglais étaient venus à l'hôtel de Bourgogne, rien de moins, en 1598. Ils jouaient en anglais. Les Français pensaient déjà d'ailleurs que l'anglais était une langue barbare et incompréhensible, qui consistait en une série d'éternuements et de tout sortement. Personne ne s'y intéressait. Quelques années plus tard, ils sont venus à Fontainebleau pour Henri IV, etc. Et en général, comme vous le savez, en France au XVIIe siècle, on ignorait l'existence d'une culture anglaise. Les Anglais n'étaient pas civilisés, ils étaient barbares. Il n'y avait que deux autres pays qui comptaient vraiment, c'était l'Italie et l'Espagne. Et quand Louis XIV a dit, je suppose dans un moment de distraction, à son ambassadeur Comminges, est-ce qu'il y a des écrivains en Angleterre ? Comminges a répondu, paraît-il, oui, sire, il y a Bacon, More, Buchanan et l'infâme Milton. Autrement dit, oui. Trois écrivains...
universels.
Oui, trois écrivains néo-latins et un seul qui écrivait en anglais, mais c'était Milton le protestant dont il ne fallait pas parler. Et le seul texte qui m'intéresse vraiment au XVIIe siècle, c'est celui du bibliothécaire de Louis XIV, Nicolas Clément, qui avait acheté le deuxième in-folio des œuvres complètes de Shakespeare de 1632 et qui a écrit une petite fiche où il dit « Ce poète anglais, évidemment, il ne le connaissait absolument pas parce que personne ne parlait de Shakespeare. Dans l'entourage de Corneille, Racine, Molière, Shakespeare était inconnu. Ce poète anglais a l'imagination assez belle. » C'est déjà quelque chose, à l'imagination assez belle. Il pense naturellement, ce qui est déjà étonnant, de penser qu'un Français ait pu penser en plein siècle de Louis XIV que la pensée, l'imagination de Shakespeare était à la fois belle et naturelle. Il s'exprime avec finesse, ce que ne dira pas Voltaire.
Il ne dira jamais ça. Oui.
Point virgule, mais ses belles qualités sont obscurcies par les ordures qu'il mêle dans ses comédies. Mais tout le monde en Angleterre disait la même chose à cette époque-là.
Oui, il y avait des scènes qui paraissaient être de mauvais goût, total.
Curieusement, Shakespeare, au moment, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, où il écrivait, avec toute cette, tentez de dire, cette flopée de génie dramatique autour de lui, a créé un théâtre tout à fait exubérant, où son goût absolument sûr lui permettait de mélanger des choses tout à fait hétéroclites. Cela marchait très bien dans sa génération, qui contenait aussi le poète John Donne, mais cela a paru à partir, disons, de 1660, la restauration de la monarchie. Cela paraissait bizarre à des écrivains anglais influencés par Rapin, Boileau, Bourg et d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là que même Dryden, qui était quand même un grand écrivain, un grand poète, grand dramaturge, même Dryden a pensé nécessaire de réécrire Antoine et Cléopâtre dans une pièce qui s'appelle All for Love, Tout pour l'amour. Et je pense que c'est dans sa préface de la transformation de Troilus et Cressida qu'il a réécrit aussi. Je pense que c'est dans cette préface qu'il dit qu'il a essayé de préserver toutes les beautés de Shakespeare et d'enlever toutes les scories. Vous voyez, l'idée semblait naturelle que Shakespeare, écrivain barbare, était évidemment un très grand écrivain qui, malheureusement, ne savait pas écrire.
Génie impur.
Oui, et c'est cette idée que je trouve tout à fait paradoxale qui a survécu en Angleterre jusqu'au début du XVIIIe siècle et qui a sévi en France à partir du moment où Voltaire a découvert Shakespeare et a pensé exactement la même chose, que c'était évidemment un très grand écrivain, mais malheureusement...
C'était des forces monstrueuses de la tragédie.
Des forces monstrueuses de la tragédie, oui. Un écrivain incapable de rester dans les... Non pas nécessairement dans les règles, mais dans la mesure. Un écrivain incapable d'écrire sans une accumulation de métaphores, etc.
Oui, donc en fait, pendant longtemps, les pièces de Shakespeare ont été interprétées par des adaptations des pièces de Shakespeare. Il y avait des coupures, et je pense au portier dans Macbeth qui frappe à la porte au moment où Duncan vient d'être assassiné. Et ce portier, parfois, a été coupé. La scène du portier a été coupée parce que c'était pour la plèbe, entre guillemets. Ça, c'est Coleridge qui le disait.
Oui, même Coleridge avait ses œillères. Cette scène est très importante, parlons-en. Mais disons d'abord qu'en Angleterre, les pièces de Shakespeare étaient très souvent jouées jusqu'au milieu du XIXe siècle dans des adaptations. Au XVIIIe siècle, les grands écrivains qui ont écrit sur Shakespeare et qui l'ont édité, comme Pope et Johnson, lisaient Shakespeare dans le texte, mais quand ils allaient au théâtre, ils ne regardaient pas des pièces de Shakespeare. Ils regardaient des pièces de Garrick, de Brady, de Nahum Tate. Le roi Lear qu'on voyait en Angleterre jusqu'en 1841, me semble-t-il, n'était pas le roi Lear de Shakespeare, mais une adaptation.
Expurgé,
où Cordelia ne meurt pas et épouse Edgar. Et la scène du portier figure parmi toute une série de scènes où Shakespeare va vraiment à la frontière du théâtre. Il invente un nouveau théâtre, au-delà de ce que pouvaient faire, en fait, les Webster, les Marlowe et les Johnson, malgré leur génie. Il invente une scène où, au moment le plus dramatique, en quelque sorte, de la pièce, le portier entre, ivre, en chantant, en disant que s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, ce sont sans doute des gens qui frappent à la porte de l'enfer et que lui, il est le portier de l'enfer. Et c'est une scène absolument merveilleuse dans le sens que c'est comique et farcique d'un certain point de vue. Il fait une scène de comédie, mais en même temps, c'est très très sérieux parce que en se présentant comme le portier de l'enfer, il assume le rôle exact qu'il a, mais dont il n'est pas conscient, parce que le château de Macbeth est devenu précisément l'enfer. Et quand il dit que les gens qui frappent sont ces gens inconscients, inconséquents, etc., qui sont sur le chemin de l'enfer sans le savoir, il a raison, parce qu'autour de lui, il y a
des... Il s'adresse à Macbeth et à Lady Macbeth, qui sont pas à pas vers l'enfer.
Oui.
C'est ça qui est incroyable de la part de Shakespeare, d'avoir réussi à faire ces images qui illustrait tout aussi bien dans la bouffonnerie que dans le drame la violence de l'événement.
Ouais, je voudrais dire deux choses au sujet du portier. La première chose, c'est un souvenir personnel. Je crois que la première fois que j'ai vu Macbeth, c'était au théâtre de l'Odéon. Et le rôle du portier était tenu par un très grand acteur dont j'ai conservé un souvenir inoubliable. C'était Daniel Hivernel. Et j'ai eu une très grande surprise en lisant l'un des ouvrages de Michael Edwards, où il dit aussi son admiration pour Daniel Hivernel, et dans un rôle totalement différent, ce qui nous conduira d'ailleurs à une autre partie de notre séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle d'Oreste dans Andromaque. Cet acteur tout à fait exceptionnel était capable de tenir un rôle tragique et un rôle bouffon, avec la gravité que le bouffon peut avoir. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette scène a été commenté dans un essai marquant de Thomas de Quincey sur le heurt à la porte dans le Macbeth de Shakespeare. Et ce texte a beaucoup influencé Mallarmé, qui s'y réfère dans un de ses essais intitulé, lui, « La fausse entrée des sorcières dans Macbeth ». Il considère que les sorcières n'entrent pas sur scène, n'investissent pas la scène à leur première apparition, mais elles sont déjà là, voilà. Et il utilise à ce moment-là l'article très remarquable de Quincey. C'est dire que cette scène a une importance très très grande, même si elle est brève, même si elle paraît insolite dans une tragédie.
Et même si elle avait été coupée pendant, on l'a dit tout à l'heure.
Et même si elle a été coupée.
On l'a coupée parce qu'on ne comprenait pas que l'intelligence de Shakespeare, qui était immense, lui permettait de contrôler tout ce qu'il mettait dans une pièce. Ce n'était pas simplement un écrivain barbare et exubérant qui allait dans tous les sens, c'était un écrivain avec une intelligence immense qui pouvait tout contrôler, tout structurer. Et au XVIIIe siècle, le mot qui revient très souvent dans les textes français sur Shakespeare, c'est le mot « goût ». Il pensait qu'il lui manquait le goût. Si seulement il avait eu le goût, ça aurait été un très grand écrivain comme Virgile. Alors qu'il avait un goût absolument formidable. C'est un peu comme la réaction des musiciens devant la grosse fougue de Beethoven. Ils ne comprenaient pas que l'on puisse avoir un cerveau capable de mettre ensemble et de voir les rapports, surtout, entre des choses tellement hétérogènes.
Vous avez parlé, Pierre Brunel, d'Oreste. Maintenant, on va parler de Racine et Shakespeare. Michael Edwards, vous avez passé beaucoup de temps à travailler la tragédie racinienne. Ce sont des livres que vous avez publiés en 1972. Puis sur Shakespeare, vous avez écrit Shakespeare et la comédie de l'émerveillement en 2003, Shakespeare et l'œuvre de la tragédie en 2005, en passant par la leçon inaugurale dont Pierre Brunel avait lu un passage au Collège de France sur un vers d'Hamlet. Vous avez publié Racine et Shakespeare en 2004 et puis, je l'ai dit tout à l'heure, Shakespeare, le poète au théâtre en 2009. Revenons à Racine et Shakespeare. Alors, Stendhal en avait écrit deux versions. Quelle était, vous, votre intention pour cet livre de Racine et Shakespeare? Quel point de comparaison, quelle différence, quel monde avez-vous mis en parallèle?
Je ne voulais pas faire du tout comme Stendhal. C'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le titre qui me semblait nécessaire de toute façon. Le livre de Stendhal est un livre de polémique qui avait son intérêt en 1823-1826. J'ai pensé que Shakespeare... J'exagère un peu, mais je pense néanmoins que c'est vrai. Shakespeare est le plus anglais des écrivains anglais, Racine le plus français, d'un certain point de vue, des écrivains français. Et qu'en faisant une comparaison sérieuse entre les deux, on pourrait aller au-delà des différences entre Shakespeare et Racine et voir les différences entre le théâtre français et le théâtre anglais, la littérature française, la littérature anglaise, la poésie des deux pays, les deux langues.
Les modes de pensée.
Les modes de pensée, la façon d'habiter le monde des deux nations. Et j'y crois vraiment. Racine étant tellement, j'utilise le mot fin de siècle, pur, et Shakespeare étant tellement exubérant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé que, la comparaison est très longue, évidemment, je ne vais pas tout raconter ici, mais il m'a semblé que, au fond, lorsqu'on lit Shakespeare, on est devant la création dans la Genèse, où la mer est pleine de poissons, la terre est pleine d'animaux, le ciel est plein d'oiseaux, et où Dieu dit « multiplier ». Alors que dans Racine, on est dans ce moment de la même création, le premier moment de la création d'ailleurs, où on lit et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est un moment de simplicité sublime. Et quand on regarde les pièces de Shakespeare et de Racine, il me semble que Racine obéit en quelque sorte toujours à cette nécessité de tout concentrer sur l'essentiel. C'est par exemple « Et la rame inutile fatigua vainement une mer immobile », les vers dont tout le monde se souvient parce qu'ils sont tellement inoubliables, où les mots mêmes semblent fatiguer le vers où il s'insère. Et en quelques mots, on a l'image qu'il faut, où l'arrive au loin gémit blanchissante d'écume, on a tout l'espoir à la fin d'Iphigénie. Dans Shakespeare, les images, il crée une image, ensuite l'image crée une autre image, cette image crée une autre image. Les rames de Cléopâtre, par exemple, ou les rames du vaisseau de Cléopâtre, quand Enobarbus la voit pour la première fois, les rames qui sont d'argent, qui battent les vagues, Enobarbus dit que les vagues semblent suivre les rames de façon amoureuse, etc. Et dans Racine, il y a l'idée que tout doit concourir à un centre absolument plein, alors que dans Shakespeare, il y a à la fois l'ordre entreaperçu d'un monde un peu meilleur que celui-ci, mais peut-être possible, et le désordre qui continue. Dans les comédies, par exemple, je mentionne le fait qu'à la fin de La Nuit des Rois, tout d'un coup, quelqu'un dit « Mais il y a eu un procès entre Malvolio et le capitaine. Où en est-il ? » Et c'est la première fois que les spectateurs entendent parler de ce procès et on ne sait pas où on en est. Et ce qui me frappe beaucoup de ce point de vue-là dans Racine, c'est le moment où, dans la préface de Bérénice, il dit que la multiplicité des incidents, des événements dans une pièce, il pense évidemment à Corneille, est le refuge de ceux qui ne sentent pas suffisamment d'abondance pour pouvoir garder l'attention de leur spectateur par une action simple qui court sur la beauté des sentiments, etc., etc. Je ne cite pas tout. Mais tous les critiques tombent sur le fait qu'il se moque de Corneille et sur la beauté des sentiments, la violence des passions. Mais personne ne parle d'abondance. Et il me semble qu'il y a une très grande leçon de poésie à méditer ce que Racine a voulu dire par abondance. Dans Shakespeare, l'abondance est évidente. C'est l'abondance d'un créateur qui, dès qu'il commence à créer, ne peut pas s'empêcher en quelque sorte et qui fait un immense tout de tout ce qui passe par sa tête, mais tout ce qui choisit de ce foisonnement d'idées qu'il doit avoir continuellement à longueur de journée. Alors que pour Racine, l'abondance, c'est le fait de savoir que quand il va commencer à écrire, il va trouver en lui-même l'abondance d'émotions, l'abondance d'analyse des gens, l'abondance de violence aussi dans les passions, pour pouvoir, non pas rallonger la sauce pour que ça dure quand même 2 heures ou 2 heures et demie, mais pour que à chaque instant, la pièce soit absolument pleine. Et je remarque que les pièces de Racine sont pleines à craquer, comme les pièces de Shakespeare, mais d'une façon tout à fait différente.
Oui, c'est ça, parce que vous dites qu'ils vont tous les deux au cœur des choses, mais par des voies différentes. Et que dans la violence, il y a toutes les petites violences, et puis Racine nous emmène vers la violence suprême, monstrueuse, dans laquelle il y a tout.
Oui, Et il est évident que pour Racine, c'est un lieu commun, et ça émerge de ce qu'on appelle l'esthétique classique, mais il est évident que pour Racine, l'essentiel, c'est d'enlever tout ce qui n'appartient pas à ce fond des choses. Quand quelqu'un veut exprimer un sens profond et angoissant de culpabilité, il dit « brûler de plus de feu que je n'en allumais », etc., comme Pyrrhus. Et c'est très, je suis tenté de dire digne, c'est très beau, c'est très profond, beaucoup plus profond que les critiques le disent, me semble-t-il. Il y a une prise de conscience chez Pyrrhus absolument originale et étonnante, émouvante. Mais chez Shakespeare, il y a l'idée contraire que tout ce qui nous habite, toute notre expérience, tout ce qui entre dans notre conscience, devrait trouver sa place dans une pièce de théâtre. Et Hamlet, quand il avoue sa culpabilité après avoir tué Polonius, pensant tuer le roi, il se rend compte qu'il a commis un péché. Il dit « je répondrai de cet acte devant la justice » et il pense en lui-même, il le dit, qu'il est coupable devant Dieu.
Même d'abord, si ce n'est qu'un rat.
D'abord, il crie « un rat, un rat ». Et c'est évidemment pour se donner le courage d'enferrer Polonius comme il enferrerait un rat. Mais c'est aussi tout à fait shakespearien. Il n'y a pas de rat dans le théâtre de Racine. Et il se sent coupable, il est absolument sérieux dans sa culpabilité. Il revient plusieurs fois dans cette grande scène avec Gertrude, où en fait il est arrivé pour la convaincre qu'elle est elle-même, qu'elle a elle-même commis une faute en épousant Claudius. Il s'en rend compte qu'il est coupable, mais à la fin de la scène, il dit en regardant le cadavre de Polonius, « je vais traîner ses tripes dans la pièce voisine ». Vous voyez la différence avec Racine, où il y a des gens qui sont traînés, comme Hercule qui est traîné autour des murs de Troie. Mais tout est digne, et le vocabulaire soulève le moment sanglant, relativement trivial, c'est un cadavre qui est petit à petit dépiécé, vers le noble et vers la dignité tragique, alors que dans Shakespeare, cette trivialité peut entrer dans une très grande tragédie.
Tragédie, comédie pour Shakespeare, finalement, les deux sont sérieux.
Les deux sont sérieux. Il a écrit des pièces qui sont évidemment des tragédies plutôt que des comédies, et des comédies qui sont des comédies plutôt que des tragédies. Mais dans les tragédies, il y a souvent des moments comiques. Encore une fois, me semble-t-il, parce qu'il ne veut pas que la tragédie soit la définition d'une certaine sorte de pièce de théâtre. Il pense que la tragédie, c'est la condition humaine, comme la comédie est la tradition humaine. Donc, dans Roméo et Juliette, on peut très bien avoir des scènes avec la nourrice qui sont hilarantes. Et dans les comédies, dans presque toutes ces comédies, la mort est présente. Parfois, il y a quelqu'un qui meurt. La Comédie des erreurs, qui est une pièce tout à fait presque farcique, les gens qui se trompent sur l'identité de père de jumeaux, commence non pas sur ce ton-là, mais avec Égéon qui est condamné à mort et qui pense qu'à la fin de la journée, il sera tué. C'est une pièce qui respecte les règles, entre parenthèses. Non pas parce qu'il voulait respecter les règles, mais parce que la pièce était comme ça. Et à la fin, il est sauvé in extremis pour une raison plus ou moins religieuse. Mais la mort descend dans la comédie parce que la comédie suit, me semble-t-il, la même trajectoire que la tragédie. On commence dans une sorte de bonheur, on plonge dans des difficultés ou des dissensions dans la comédie, dans la mort, dans l'ambition, dans la violence, etc., dans la tragédie. Et puis, à la fin, il y a un mouvement d'ascension vers la joie, la réconciliation, ou dans les tragédies, vers parfois une réconciliation et une joie, et toujours vers une sorte d'ouverture, une fenêtre qui s'ouvre à la fin.
Un au-delà.
Un au-delà.
Un au-delà.
Thank you.
Pierre Brunel, où en sont les études sur la fortune littéraire de Shakespeare en France ? Tout à l'heure, on a parlé de Claudel.
C'est une question très embarrassante. Alors, d'abord, je voudrais peut-être procéder à une distinction qu'il est nécessaire de faire dans le cadre de ce débat et de cette émission. Distinction entre la comparaison littéraire et la littérature comparée. Le Racine et Shakespeare de Michael Edwards est un magnifique livre de comparaison littéraire, ce qui est extrêmement rare, parce que chez nous, la comparaison littéraire tourne vite au parallèle superficiel. Hein. Et au contraire, cette comparaison a permis à Michael Edwards d'aller au fond des choses. Et il y a un mot qui m'a beaucoup frappé, je crois, dès le début de son livre, c'est le mot « inductif ». Quand il dit que sa méthode va être inductive, c'est une méthode, si je puis dire, qui est beaucoup plus anglaise que française, mais qui convient parfaitement à ce sujet. Et les comparatistes français feraient bien d'en prendre de la graine. Alors, les comparatistes français, par tradition, aiment les sujets historiques, les études de réception, les études de fortune littéraire. Et ce sujet dont vous parlez, la fortune littéraire de Shakespeare en France, les a tous hantés hein, à un certain moment de leur carrière. Or, ce qui est curieux, c'est que, du moins à la date où nous sommes, ça n'a pas abouti à un ouvrage définitif. Je renvoie ici à un livre auquel je suis très attaché, c'est le « Que sais-je ?» de Marius-François Guyard sur la littérature comparée, dont la première édition est de 1951. Marius Guyard nous a malheureusement quittés cette année, au mois de mai. Et en relisant les pages qu'il écrit, je me dis, elles sont encore d'actualité. Un grand projet qui est effleuré, ou alors qui aboutit à des études partielles. On étudie en profondeur la relation entre Shakespeare et tel auteur français. Mais la grande somme, la grande synthèse, ou même une synthèse par siècle, très très difficile à trouver. Ça a été effleuré par exemple par Fernand Badensberger, le premier titulaire de la chaire de littérature comparée à la Sorbonne, comme je le rappelais tout à l'heure, dans un livre qui porte bien son titre, hein, je crois que c'est « Esquisse ». D'une histoire de Shakespeare en France, hein. Il ne se sentait pas à la force d'aller au-delà d'une esquisse, ou peut-être qu'il pensait que le moment n'était pas encore venu d'aller au-delà de l'esquisse. Alors nous avons actuellement des études, je dirais, ponctuelles, hein, forcément sur Voltaire, c'était indispensable.
Et sur Hugo aussi ?
Sur Hugo, je ne suis pas sûr que ça ait été fait systématiquement.
Et sur Ionesco ?
Sur Ionesco, je ne pense pas non plus, hein, mais c'est un sujet auquel on a réfléchi, mais je ne pense pas qu'il y ait d'études fondamentales. Sur Claudel, je ne suis pas le seul à avoir traité ce sujet. Ma collègue Dominique Millet-Gérard vient de publier un livre tout à fait remarquable sur Tête d'or, où l'étude est beaucoup plus approfondie que je ne l'avais fait. Mais vous voyez, ça reste auteur par auteur. La synthèse manque. Peut-être est-elle infaisable. Le tableau que faisait Michael Edwards tout à l'heure pour le XVIIe siècle m'a beaucoup intéressé parce que c'est finalement peu connu de nous. Faire un semblable tableau pour le XVIIIe, c'est plus facile. On a quand même quelques références. On a Voltaire, on a les traducteurs, le tourneur du VI. Et puis, à partir du XIXe, au contraire, c'est le foisonnement, mais un foisonnement un peu en désordre parce que Shakespeare peut être le prétexte à parler d'autre chose. Je disais tout à l'heure, parce que ça m'a beaucoup frappé en relisant ce livre, que le William Shakespeare de Hugo est beaucoup plus un livre sur le génie, sur les génies, que sur Shakespeare seul. Et d'ailleurs, le plan en est clair. La première partie, c'est les génies, la deuxième partie, c'est Victor Hugo. Il y a quand même quelque chose de magnifique au début de ce livre. Vous savez que Hugo vient d'arriver à Jersey, en exil, avec son fils François-Victor. Et il dit « Devant moi s'étendait l'océan, devant François-Victor ». L'œuvre de Shakespeare, ça, c'est splendide.
Ça s'appelle de l'éducation, je ne m'y connais pas.
Voilà. Et ce livre, qui n'est pas suffisamment étudié, qui n'est pas suffisamment connu, le William Shakespeare de Victor Hugo, était conçu comme une introduction à l'ensemble des traductions de François-Victor. Et en fait, il est devenu un livre autonome pour nous. J'ai la chance d'avoir l'édition originale, figurez-vous, chez moi, que j'ai acquise dans des conditions extrêmement faciles. Et c'est un livre qui est impressionnant. Mais il ne faut pas y chercher ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire ce n'est pas un livre sur Shakespeare.
Michael Edwards, y a-t-il eu une comparaison faite, parce que vous avez fait la comparaison Racine-Shakespeare et Molière-Shakespeare ? Il y a un chantier à faire peut-être là.
Il y a un mauvais livre de Paul Stapfer qui consiste à montrer à quel point Molière est supérieur à Shakespeare.
Oui, ce n'est pas très inductif ça alors.
Non. Et puis dans mon livre sur Racine et Shakespeare, j'ai essayé de ne pas donner la préférence à l'un ou à l'autre. Après tout, les Anglais préfèrent naturellement Shakespeare. Je conçois que les Français puissent préférer Racine. Il faut d'abord être dans les deux cultures et dans les deux littératures pour voir chaque auteur de l'intérieur. Et ensuite, il faut non pas rester objectif, mais voir ce qu'il y a de magnifique dans chaque écrivain. Alors que Stapfer, visiblement, audiblement, ne comprenait rien au comité de Shakespeare. Et je pense que la comparaison n'a pas été faite, elle serait à faire, parce que s'il y a un dramaturge français avec le génie prolifique de Shakespeare, c'est bien Molière, avec la capacité de mêler de façon un peu plus mesurée, disons, le tragique et le comique, avec le talent de passer de la farce à des choses extrêmement émouvantes dans la même scène, c'est bien Molière. Et Molière avait un avantage sur Shakespeare qui n'est pas méprisable, c'était le fait d'être un acteur de génie. Shakespeare était comédien, mais un comédien parmi les autres, il se donnait toujours des petits rôles. Alors que Molière, non seulement c'était un grand acteur comique, tous les contemporains le reconnaissaient, surtout ses ennemis, mais il écrivait à partir, me semble-t-il, de son jeu d'acteur. C'est ça que beaucoup de critiques littéraires ne voient pas. Oui, la comparaison est à faire et elle serait à la fois à l'honneur de Molière et de Shakespeare.
Vous avez écrit un livre sur Molière?
Oui, enfin, je viens de terminer un livre sur le rire de Molière, justement, où je m'insurge contre les metteurs en scène et les critiques qui ont fait de Molière un auteur de drames sombres. Vous savez, Molière est un auteur français universel, une des gloires de la littérature française. Donc, un écrivain tragique. Il me semble que c'est ça le glissement logique, n'est-ce pas? Il faut absolument que ce soit un auteur à fond tragique et que même s'il s'est amusé à faire des comédies, les comédies ne font pas rire, les comédies font à la limite pleurer. Font comprendre et font pleurer. Et évidemment, il y a de cela chez Molière, je viens de le dire, c'est un auteur qui va vers le tragique, qui va dans le tragique. Mais pour moi, l'essentiel, c'est d'apprendre ce rire de Molière qui émerge de la farce, qui remplit ce qu'il est conventionnel d'appeler les grandes comédies, le misanthrope, Don Juan, Tartuffe, etc., et qui culmine dans les comédies-ballets. Encore un problème, les comédies-ballets sont précisément des comédies-ballets. Et quand on les voit au théâtre, la plupart du temps, on ne voit que la comédie. Quand on achète un livre en librairie, on voit Molière, le bourgeois gentilhomme. C'est un peu comme si on disait Da Ponte, Don Giovanni, la musique de Mozart.
Eh bien, merci beaucoup. Je vois qu'avec toutes ces comparaisons, ces réflexions, on peut dire que quand même Shakespeare fait partie de la conscience française. Merci, messieurs.
Merci, madame.